RMC.
Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite.
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
Et je considère Dimitri un des génies modernes du football.
After Marseille,
Thibaut Giangrande.
Salut mes Marseillais, comment ça va? Bienvenue dans l'After Marseille, le podcast qui débat de l'actu de l'OM toutes les semaines, dispo partout, sur vos applis préférées, sur RMC, rmcsport.fr. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez aussi commenter, noter, n'hésitez pas à aller mettre les petites 5 étoiles si ça vous plaît. L'équipe de la semaine, coach Courbis, c'est là. Salut mon Roland. Salut les amis. Et Walid Acherchour est là cette semaine. Salut Walid.
Salut Roland, salut le T.
Salut Walid. Ça va le W?
Ça va, super.
En pleine forme tout le monde?
En pleine forme, en pleine forme. Toujours en pleine forme quand on parle avec Roland.
La saison est finie. Forme moyenne, moyenne basse pour les Marseillais. 8ème place, pas de Coupe d'Europe. Une saison cata qui sera...
Une satisfaction hier. Hein.
Ah.
Quand ils ont dû voir le match que
l'Atalanta,
ils se disent tiens, ouais. On a perdu contre l'Atalanta, on n'a pas perdu contre n'importe quelle équipe. On a perdu contre l'équipe
exactement.
Qui a empêché les autres d'être invincibles.
Et d'ailleurs, c'est le débat du jour. Est-ce que l'OM n'aurait pas battu le Bayer Leverkusen?
Mais évidemment.
Non, on va pas faire ça. Je remercie Toto d'avoir envoyé le jingle, mais c'était une vanne, hein, Toto, on va pas faire ça comme débat. C'est exceptionnel. Non, on va plutôt parler de la nouvelle révolution qui arrive à l'OM parce que la saison a été cata et ça ne sera pas sans conséquence pour cet été. La masse salariale va baisser, des joueurs trop limités vont partir. Que doit faire le club cet été? C'est plutôt ça notre thème du jour. Alors Flo Germain n'est pas là, mais juste avant de partir en vacances, il nous a laissé énormément d'infos. Pour l'été à venir, je vais vous les donner et vous allez me donner votre avis, vous allez me dire ce que doit faire l'Olympique de Marseille cet été pour démarrer un nouveau cycle. Déjà, nous dit-on, on partirait sur un cycle de 3 ans. Déjà, est-ce que c'est quelque chose... est-ce que finalement, c'est pas ça la grosse info à retenir? J'ai pas mal d'infos à vous donner sur des joueurs dont on veut se séparer, mais est-ce que Longoria président, l'OM peut partir sur un projet de 3 ans? C'est crédible, ça?
Crédible, on verra. Après, en tout cas, je pense que c'est la solution la plus... c'est la meilleure solution pour l'Olympique de Marseille parce que c'est ce qui a coûté à l'Olympique de Marseille, je pense, moi, cette année, c'est-à-dire le manque de stabilité au niveau du coach. Quand on parlait de l'Atalanta, un entraîneur comme Gasperini qui est là depuis très très longtemps et qui, même si l'effectif a changé, 8 ans, on sent que les principes de jeu, les repères permettent aux joueurs et au club d'être beaucoup plus cohérents et sur la durée. Donc oui, moi je pense que c'est la bonne solution. Après, est-ce que c'est réalisable à l'Olympique de Marseille? C'est toute la question.
Sous Longoria, Roland, on peut partir vraiment sur un projet
sur plusieurs années. Pourquoi on passe d'une extrémité à l'autre? 3 ans, ça fait beaucoup, mais pas seulement parce que l'OM vient de se planter sur la dernière saison. 3 ans à l'Olympique de Marseille, je sais que bon, j'étais pas loin de les faire 2 ans et demi. Mmh. J'ai vu que Didier Deschamps m'avait battu en faisant 3 ans, mais quand j'ai vu la tête de Didier la troisième année, j'étais content d'être parti à 2 ans et demi. Donc plaisanterie mise à part, là, on est quand même dans un club particulier où, disons que l'entraîneur, il faut qu'il soit pas particulier, mais qu'il soit disons, en rapport avec ses obligations de personnalité dans un endroit compliqué. Et ensuite, avec Longoria, qui a, si tu veux, une liste de joueurs très intéressants, je dis pas que c'est pas facile à avoir, c'est moins difficile que de les choisir, ces joueurs-là, et de les choisir en fonction d'un entraîneur avec certains principes. Quel sera le plan A? Quel sera le plan B de cet entraîneur? Un exemple, est-ce qu'on jouera à 3 arrières centraux ou à 2? Est-ce qu'on jouera peut-être avec les 2 formules? Et donc la complémentarité entre un tel qui forme des duos, entre un tel et un tel qui forme des trios, ça se fait pas en sortant, tiens, il y a un très bon joueur avec des stats extraordinaires, là il y en a encore un très bon, et combien il coûte? Eh ben non, il faut que ça se fasse avec Pablo Longoria et le coach. Sinon, ne soyons pas surpris qu'il puisse y avoir des erreurs. Pas parce que Longoria est incompétent, parce que c'est pas lui l'entraîneur.
Et on parle du coach, mais c'est aussi les joueurs. C'est-à-dire que ce qu'on a déploré sur les dernières années, c'est qu'il y a eu des va-et-vient perpétuels. Bon, là, je pense que vu la saison qui vient de s'écouler, il va y avoir beaucoup de départs et c'est plutôt logique. Mais les joueurs qui vont arriver, d'avoir des joueurs qui peuvent s'inscrire dans la durée, je ne dis pas 4-5 ans, mais au moins entre 2 et 3 ans, un peu, quand on parle de cycle, c'est au-delà de l'entraîneur. On ne sait pas ce qui peut se passer pour l'entraîneur. Ouais. Mais même pour les joueurs, d'essayer d'avoir ne serait-ce que 2 ans. Et de pouvoir s'appuyer là-dessus.
Excuse-moi de te couper. Donc, j'insiste sur l'importance du coach pour pouvoir, avec Longoria, choisir les joueurs, un effectif complémentaire, pas trop grand, pas trop petit non plus. Et aussi, si je dis que c'est difficile d'être entraîneur de l'OM, je te dis que c'est difficile et différent d'être joueur de l'OM. Oui. Un bon joueur dans un club de milieu du tableau, eh ben, ça va être un fiasco à l'OM, ou le contraire. Mais les gars qui arrive à signer à Marseille, pour moi, il faut un certain comportement, une certaine personnalité, une certaine vision des jeux. Il y a des joueurs qui sont faits pour jouer à l'OM et d'autres non.
Sont pas faits. Ce projet, donc j'ai plein d'infos à vous donner et qu'on va analyser avec Roland, avec Walid dans ce podcast. Ce projet va être basé bien évidemment sur l'absence de Coupe d'Europe, donc la nécessité de réduire la masse salariale, de se séparer d'énormément de joueurs. Marseille n'hésitera pas à vendre. Et les infos de ce que nous dit Flo Germain, les seuls qui sont, alors justement pas intransférables, mais qui ne partiront que si l'offre est très grosse, Balerdi, Aubameyang et Bamo Meïté. En gros, c'est les trois joueurs sur qui Marseille
donc veut compter. C'est-à-dire que sans peut-être t'en rendre compte, tu es en train de donner comme vision des choses aux supporters marseillais, aux passionnés de football, c'est que nous avons et nous sommes intéressés uniquement par trois joueurs. Mais, suivant le prix pour ces joueurs-là, oui, ils partiront eux aussi.
Oui.
Eh bien, disons que, tu vois, quand je pense qu'un supporter, il doit s'attacher à certains joueurs, il doit s'attacher à une ossature, en te disant, tiens, celui-là, c'est un joueur de l'OM, c'est pas un joueur du club d'à côté. Je donne un exemple pour Guendouzi, qui est pour moi pas le meilleur milieu de terrain d'Europe, mais c'est un joueur qui est fait pour l'OM, ça ressemble à l'OM, il t'en faut pas 11, mais un ou deux comme lui, ben pour moi ça me va très bien.
Donc ça, ces joueurs-là restent, ce seront les piliers, sauf bien évidemment s'il y a grosse offre. On parle Balerdi, on sait que certains clubs pourraient s'exciter et faire de très gros chèques, là ils pourraient partir. Il y a des joueurs qui devraient rester parce que à Marseille on estime qu'ils n'ont pas pu s'illustrer, soit parce qu'ils sont arrivés trop tard, qu'ils n'ont pas pu assez jouer aussi parce qu'ils ont été blessés. Mourinho, Mumbanya, Merlin, Nadir, Rongier. Voilà, l'OM compte sur ces joueurs-là, donc évidemment avec toujours le spectre d'une grosse offre, mais a priori, il y en aura moins pour ces joueurs qui n'ont pas eu le temps de s'illustrer.
Là, il y a dans ce que tu viens de nous dire, il y en a un de joueurs, et Dieu sait que tout le monde l'adore, c'est Rongier. Ouais. Donc c'est comme une recrue, et une recrue qui est un renfort, hein, parce que tu sais la différence que je fais toujours.
Bien sûr.
Et donc Rongier, on ne l'a pas mis dans les quatre, mais qui retrouve son poste. Peut-être pas sur les 2-3 premiers mois et qui reviennent petit à petit à 100%, ça c'est quand même une bonne nouvelle.
Donc là, en résumé, les noms que je viens de vous donner, c'est en gros ceux que l'OM veut garder. Et je vais détailler dans quelques instants tous les autres, c'est-à-dire que tous les autres, on ne compte pas forcément dessus. Est-ce que là, avec ce que je viens de vous donner, bon, mais c'est une base qui vous semble satisfaisante pour reconstruire...
Excuse-moi Walid, c'est que là, je ne sais pas si on s'en rend compte... Mais pour moi, un effectif, allez, et encore, heureusement qu'il n'y a pas eu de qualification pour la Coupe en bois, là.
Donc, conférence,
mais
traduction.
Il te faut quand même presque une vingtaine de joueurs avec 3-4 jeunes qui peuvent y être, ces 3-4 jeunes, puisqu'il y a la Gambardella,
ils vont la jouer samedi.
En finale, ouais. Ouais. À 15h pour qu'ils ne se fassent pas siffler, c'est magnifique. Donc, en ce qui concerne... Donc, cette obligation, tu vas donc récupérer 15 joueurs. Tu peux faire les calculs et les comptes comme tu veux. Et si par exemple...
C'est forcément une mauvaise nouvelle ? Forcément...
Une mauvaise nouvelle. Donc, quand je parlais qu'il faut tout de suite l'entraîneur pour pouvoir choisir le profil des joueurs, ce qu'il a envie, pour pouvoir faire un effectif équilibré avec certains joueurs, certains profils, Eh bien, c'est pas simple du tout. C'est pas seulement prendre 15 joueurs. 15 joueurs, c'est énorme. Puisque s'il en reste que 3, imaginons, et encore, c'est pas sûr qu'il reste si des fois il y a un gros chèque. Mais tu t'imagines cette intersaison. Et on voulait me parler de l'éventualité d'une qualification pour une coupe conférence, même si elle ressemble à rien, cette coupe-là. Mais c'était catastrophique. Au moins, il n'y a pas eu ça. On peut passer un été tranquille.
Walid.
Non, mais moi, de toute façon, je l'ai toujours dit. On est encore dans le flou. On est trop dans
sûr,
le flou.
Bien sûr. Là, c'est l'idée générale que je veux dire. Le
oui,
mercato n'a pas commencé. Non, mais il n'y a pas de coach encore.
C'est les tendances. Exactement. Ce qui se passe le 23 mai, on sait très très bien que les avis des dirigeants sur certains joueurs, ça va être aussi conditionné par l'arrivée du coach, d'une préparation, le retour aux alentours du 1er juillet notamment, des offres aussi irrefusables ou non. Tu parlais des trois joueurs, notamment Balerdi, si demain il y a 40 millions qui arrivent, qu'est-ce que il s'en va. Aubameyang, il va falloir aussi voir est-ce que avec la masse salariale, si les 700 000 ils vont.
Et autre petit problème, excuse-moi de te couper. C'est qu'Aubameyang, ce que j'ai incité pour la complémentarité, il faut trouver un et demi attaquant complémentaire avec son profil. Donc tu es en train de le chercher, et puis d'un coup, boum, il te donne une offre d'Aubameyang, alors que tu viens de faire signer celui qui était pour tout le monde, pour l'entraîneur et pour tout le monde, le complément d'Aubameyang. Donc je dis, c'est plus compliqué que ce qu'on pense.
Et donc voilà, je disais que on est sûr de rien. Et par exemple, un joueur comme Jordan Veretout, qui a un gros salaire, moi je pense que Jordan Veretout, normalement, de mon analyse, devrait être dans les joueurs qui ne doivent pas être transférés. Mais la même chose,
alors, je précise là-dessus les infos de Flo. Comme tu le dis, c'est les gros salaires. Et en gros, c'est des gros salaires qui ne seraient pas retenus. Il y a lui, il y a Kondogbia, évidemment Joaquin Correa. Tous les jours, on l'emmène.
Mais Joaquin Correa, de toute façon, il reviendra à l'Inter Milan parce que la condition, c'est qu'ils aillent en Ligue des Champions.
Mais toi, Veretout, par exemple, tu gardes.
Non, mais entre Veretout et Kondogbia, si j'ai un choix à faire par rapport à la performance cette saison, je prends Veretout malgré son gros salaire. Ouais. Maintenant, ça va être des choses à considérer pour l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour ça que moi je dis que aujourd'hui c'est quand même trop tôt pour faire des avis tranchés d'effectifs, surtout qu'on n'a toujours pas le coach.
Parmi les joueurs qui seront pas retenus cet été, Ismail Assar, Azdin Ounahi, logique, pas de dinguerie à entendre ça. En revanche, Gasset, avant de partir, a confié à ses dirigeants qu'il ferait bien quand même d'insister un peu avec Ndiaye. Illiman Ndiaye.
Bah, Ndiaye, le gros problème, ça va être le problème mental. C'est-à-dire que, c'est ce que Roland disait en début de podcast, est-ce que c'est un joueur pour l'OM ou est-ce que c'est pas un joueur pour l'OM? Pour l'instant, il nous donne
pas. On a peur d'avoir la réponse.
Pour l'instant, c'est.
Correa, lui, il n'y a pas de problème, c'est un joueur pour n'importe où.
Et pourtant, il a un CV.
Mais plutôt, nulle part.
C'est fou.
Mais en tout cas, Ndiaye, pour l'instant, nous a envoyé la réponse, la première réponse. Ça reste un contrat de 4 ou 5 ans, donc est-ce que s'il a une cote en première ligue avec un gros montant, est-ce qu'il faut le sortir? C'est la question, ça va être une question importante pour les dirigeants marseillais. Mais c'est vrai que Ismail Assar, Ndiaye, Ounahi, ce sont trois joueurs quand même qui ont, je pense, une valeur marchande qui peut être intéressante pour l'OM, parce que Ounahi a fait une grosse Coupe du Monde.
Et il ferait bien de ne pas les retenir.
Oui. Et je pense qu'en Espagne, je suis persuadé qu'un Ounahi, je ne sais pas, dans un club comme la Real Sociedad, comme le Real Betis, dans un style de jeu peut-être différent, tu peux le refourguer. Oui, Ismail Assar en Championship ou en Angleterre, je pense que tu peux aussi le refourguer.
Tu peux aussi t'en servir dans une négociation avec le départ ou l'arrivée d'un joueur, de se dire tiens, voilà, en même temps je te donne et je te prête pendant un an Ismail Assar
c'est logique.
Et peut-être que là tiens une agréable surprise que ce joueur-là.
Mais ce qui sera surtout intéressant, c'est sur le mercato des transferts, quel moyen va avoir l'Olympique de Marseille. Comment ils vont
Ça dépendra justement départs, de ces ventes pour la masse salariale.
Quelle sera leur stratégie? Moi, ce que je sais avec certains échos, c'est que ils veulent régénérer l'effectif aussi en termes de jeunesse, c'est-à-dire ramener pas du joueur de 18-19 ans, mais 23, 24, 25 ans pour essayer d'avoir créer de la valeur marchande aussi sur les prochaines années et travailler avec un coach pour la progression de ces joueurs-là. Donc moi, je serais pas étonné de voir des joueurs de Ligue 1 qu'on a vu cette année dans des clubs intermédiaires. Mikotadze, Logan Costa, des joueurs, voilà, ce type de joueurs. Je dis pas c'est ces joueurs-là qui vont arriver,
des joueurs qui peuvent devenir petit à petit des joueurs de l'Atalanta. Donc qui ont été récupérés à droite et à gauche sans sortir des gros chefs.
Et qui brillent dans
et quand tu les vois jouer hier ensemble, mais tu es un petit peu jaloux quand tu es supporter en disant mais mon club là, avec le même sou que l'Atalanta, voire même un peu plus, voire même beaucoup plus, ils n'arrivent pas à faire une équipe et l'Atalanta fait une équipe, parce que c'est pas d'aujourd'hui que cette équipe est bonne. Quand on était en plein Covid, en demi-finale, il y a un miracle.
L'effectif a changé, mais avec le même coach. Et puis surtout, ramener, moi je pense, encore une fois, une attitude bien bien meilleure et une exigence dans le club, dans les performances, une régularité, c'est ce qui va être aussi très très important, je pense.
Et je rebondis sur ce que tu dis pour dire que Klose et Bemba, cet été, leur restera un an de contrat. Donc,
porte de sortie aussi.
Voilà, porte de sortie. Le flou autour de Gigot, Ulysse Garcia, Luis Enrique, le club hésite encore, ça on va attendre l'entraîneur, bien évidemment, pour ce type de profil.
Klose, l'euro peut lui faire du bien et il peut avoir une porte de sortie derrière avec une valeur marchande qui peut être intéressante pour l'OM.
Un an du contrat, ce serait bien. Et juste, je voudrais vous entendre sur une dernière chose, l'interrogation cet été sur Paulo Lopez. L'OM a des doutes. Le joueur lui-même, hein, c'est ce qu'il en a parlé juste avant le dernier match de la saison, où en gros il disait qu'il voudrait pas être un boulet pour le club, que si on lui disait qu'il ferait mieux de partir, il s'en irait sans faire de vagues. Est-ce que l'OM doit trouver un nouveau numéro ?
Moi, Paulo Lopez, je suis très très... C'est très partagé sur son cas parce qu'il y a cette année, il a quand même fait des matchs de grande grande qualité. On se rappelle de Villarreal au retour, du match contre Benfica au retour. Il est capable d'avoir de grandes fulgurances. Maintenant, moi, j'ai un problème avec son manque d'envergure, avec parfois ses qualités de gardien. Je pense que l'OM pourrait avoir un meilleur gardien que Paulo Lopez. Après, quand on voit la saison, c'est pas le poste prioritaire à remplacer. Donc, à voir.
Oui, parce que bon, tu peux être meilleur que Paulo Lopez, mais bon... Il est pas mauvais quand même. Ouais. Hein.
Toutes les infos, bien évidemment, rmcsport.fr et on continuera d'en débattre tous les jours sur RMC, toutes les semaines dans le podcast After Marseille. Merci mon coach.
Salut.
Merci
salut,
Walid.
Salut.
Merci à Toto, Jérôme, en régie. Merci à vous d'être là, fidèles à l'After Marseille. À la semaine prochaine. Ciao.
RMC, After Marseille.